Vous savez, il n'y a pas besoin d'avoir une sensibilité déraisonnément accrue pour avoir tant d'empathie pour les autres que l'on peut finir par s'y perdre. J'ai personnellement, et ce depuis aussi loin que je m'en souvienne, toujours eu beaucoup de mal à trouver un équilibre sain dans mon implication émotionnelle face aux autres. C'est même, pour tout vous dire, l'une des principales raisons qui a fait que je suis allée voir une psychologue. Je finissais en fait par être frustrée par ce foutraque d'émotions dont je savais pas quoi faire. J'avais l'impression parfois de trop comprendre les autres et d'autres fois d'être carrément à contre-courant d'eux, comme si je découvrais les émotions humaines et que je savais pas comment réagir face à elles. J'ai toujours beaucoup interrogé les personnes de mon entourage proche pour savoir comment ils géraient les conflits, les grands sentiments, les déceptions, les joies, quel était leur rapport en fait aux dynamiques humaines les entourant. Chose à laquelle ils ont fini par s'habituer, mais qui les fait toujours rire. Parce que voilà, en général, les gens ne s'embêtent pas de savoir comment il faudrait qu'ils réagissent. Ils réagissent, un point c'est tout. Alors si vous aussi vous êtes déjà posé ce genre de questions, que vous voulez poser encore, et que vous souhaitez plus que tout trouver un équilibre dans votre rapport aux autres, cet épisode est fait pour vous. Alors installez-vous confortablement, ou au contraire, partez pour une petite marche. C'est parti! Bonjour à toutes et à toutes, je suis très heureuse de vous retrouver dans ce nouvel épisode de Summer Talk avec votre roulette nationale, bref, je l'espère. Cet épisode me tenait à cœur, comme tous les épisodes que je sors bien sûr, mais d'autant plus à cœur que, voilà, quand je me suis posée sur la question de comment ça se faisait qu'à mon grand âge, pas si grand que ça, suivant les perspectives, enfin, qu'à 23 ans, j'arrive encore aussi peu à, comment dire, maîtriser mon implication émotionnelle face aux autres, je me suis dit genre je vais trouver des gens qui vont en parler, je vais trouver des contenus qui en parlent, et en effet ça a été le cas, mais pas dans le sens où entre guillemets j'en avais besoin. Donc je me suis dit mais je vais l'écrire moi-même cet épisode, et j'espère qu'il servira à d'autres personnes comme toujours. Et aujourd'hui, en parfait écho à l'épisode du jour, je ne suis un peu plus heureuse de vous présenter le sponsor de cet épisode, à savoir en fait la sortie du livre L'ombre de la couronne d'Abigail Owen, publié aux éditions Stardust et disponible partout. Pourquoi je dis en parfait écho à l'épisode du jour? C'est parce qu'on y suit en fait l'histoire de Meren, qui est une princesse sœur jumelle cachée de la future héritière en titre, sa sœur donc jumelle, du titre de reine. Toute sa vie, elle a protégé sa sœur dans l'ombre de toutes les conspirations, de tous les complots politiques qui pouvaient s'abattre sur elle, jusqu'en fait à la veille du couronnement de sa sœur, donc en tant que reine, elle pressent qu'il va lui arriver quelque chose, elle va prendre sa place et en effet être victime d'un kidnapping, qui du coup la visait pas elle à la base, mais sa sœur. Le plus intéressant, c'est qu'elle va se rendre compte, en fait, après, avec la suite des aventures, et avec le fait qu'elle va côtoyer ce mystérieux individu qui l'a enlevé, que ses véritables ennemis n'étaient peut-être pas ceux auxquels elle songeait. C'est une héroïne qui est extrêmement forte, qui est extrêmement indépendante. On a des personnages secondaires qui rajoutent tout le piment du monde à une histoire déjà extrêmement bien ficelée, à un univers hyper intéressant et super bien détaillé. On a une plume de l'autrice qui est juste hyper agréable et belle à lire. Donc foncez, si vous n'avez pas de livre pour le mois ou pour le mois qui arrive, foncez acheter L'ombre de la couronne aux éditions Stardust. Revenons à nos moutons. Parfois, à être trop empathique, sensible, compatissante ou compatissant, on peut finir par se perdre dans notre manière d'interagir avec les autres. Du moins, c'est ce que je croyais être la raison depuis des années à ce problème d'équilibre, mais en fait c'est plus compliqué que ça. Le problème, c'est pas un manque de maturité par exemple émotionnelle qui serait atrophié par un trop plein de sentiments me traversant, mais tout simplement un manque de confiance dans mon rapport aux autres. Quand je vous dis tout simplement entre guillemets, c'est parce que pendant mes premières séances chez ma psy, j'essayais à tout prix de comprendre le pourquoi du comment. Je m'accablais entre guillemets, non je m'accablais tout court en fait, de ne pas être assez mature dans mes relations avec les autres. C'est-à-dire que quand je racontais des problèmes que j'avais, mais des problèmes lambda à des plus, on va dire, coriaces, je disais toujours « Non, mais c'est peut-être parce que je suis trop immature émotionnellement sur tel sujet. Non, mais c'est peut-être parce que je manque de maturité sur telle chose, parce que je l'ai vécu qu'une fois ou je l'ai pas vécu. » Par exemple, dans les relations amoureuses, je disais « Ouais, non, mais peut-être que là, je prends la chose comme ça parce que ben, j'ai pas assez d'expérience dans le domaine. Du coup, j'ai pas assez de maturité, puisque c'est assez corrélé en général. » Et ce qui est assez fou, c'est que très vite, en fait, ma psy, elle m'a dit « Mais c'est totalement contradictoire de dire que vous manquez de maturité par rapport à quelque chose dont vous vous posez autant de questions. Le manque de maturité, l'immaturité, ce serait ne jamais se remettre en fait en question, ne jamais essayer de voir les choses sous une autre perspective, de ne jamais analyser les choses, de ne jamais essayer de tirer de conclusion d'une situation. » Donc elle me dit, vous ne pouvez pas vous accabler et surtout vous nommer vous-même immature d'une situation quand vous avez tout ce raisonnement-là dans la tête. Elle me dit, ce serait presque l'inverse, vous auriez trop de maturité face à la situation. Et là, on va se dire, ouais, c'est un espèce de compliment déguisé, ça, c'est jamais mauvais que quelqu'un vous dise, oh, mais t'es trop mature. Quand on te dit, ouais, mais t'es vachement mature pour ton âge et tout, ça fait toujours plaisir, enfin, c'est censé flatter. Sauf qu'en fait, avec le recul, ça n'en était pas un. C'est-à-dire qu'avoir trop de maturité sur une situation, essayer de trop la comprendre, trop l'analyser, on n'a pas besoin de faire maths sup, pour savoir que le souci, c'est que ça vous donne beaucoup trop de recul, en fait, par rapport à ce que vous devriez vivre. C'est-à-dire que moi, j'ai mon histoire personnelle qui a fait que j'ai tiré certaines leçons plus vite que les gens de mon âge. Et le souci, c'est que du coup, j'ai moins vécu, on va dire spontanément, naïvement, certaines situations que mes copains, que mes copines vivaient, parce que justement, j'avais cette maturité-là. Je pense notamment au divorce de mes parents. J'ai un divorce qui s'est super bien passé, mais qui forcément fait tirer des conclusions sur l'amour qui sont différentes de mes amis qui avaient leurs parents toujours ensemble, très amoureux, etc. Et ce qui a fait que moi, dans les premières peines de cœur que j'ai pu avoir, j'étais hyper, en fait, factuelle. Genre, j'étais en mode, oui, c'est la vie, on s'aime plus, ça marche pas, c'est pas grave, je peux pas être triste de ça parce que c'est la vie. Parce que moi, c'est la manière dont je l'avais vu dans l'exemple de mes parents, qui, encore une fois, en plus, s'est très bien passé, moi, de mon ressenti en tant qu'enfant. C'est-à-dire que, sans rentrer dans les détails, c'est pas le but, mais juste de spécifier que, forcément, moi, j'ai eu cet exemple de « c'est la vie ». C'est pas grave, voilà, ça veut pas dire que c'est forcément mauvais quand les choses ne marchent pas, quand les choses s'arrêtent, c'est juste qu'il fallait les arrêter à temps. Mais ce qui a fait que moi, quand ça s'est passé dans mes premières expériences amoureuses, j'étais aussi dans ce mindset-là. Et j'ai eu des partenaires en face de moi qui m'ont dit, mais je sais pas, genre, ressens quelque chose, énerve-toi, pleure, je sais pas, tape du poing sur la table, mais t'es en colère, on dirait un robot. J'ai vraiment eu une phrase, et je pense que c'était l'une des pires que j'ai eues dans une de mes... rupture, on va dire, avec une personne avec qui j'avais été, que j'avais beaucoup aimé, qui m'a dit « je peux même pas te briser le cœur parce que ça impliquerait que t'en aies un ». Ah ! Bon, je vous avoue que j'ai encore du mal avec cette phrase à l'heure actuelle, parce que, en fait, c'est pas que j'avais pas un cœur, mais c'est que j'étais tellement tout le temps en analyse et en recul, en fait, émotionnel sur ce que je vivais. Parce que j'avais appris à faire comme ça lors du divorce de mes parents, en fait, hein, à me mettre un espèce de mode veille, un espèce de mode de, non mais prends du recul, c'est pas si grave. Parce que même si ça s'est très bien passé, ça reste une cassure hein, dans le modèle familial, un divorce. Et quand on a 14 ans, voilà, j'étais pas hyper jeune dans le sens où j'avais pas 5 ans, etc. Mais ça reste quand même jeune parce que t'es en période en plus de pleine construction où tu cherches tes repères, tes modèles et tout machin. Je pense que ça a été quelque chose de très violent. Et moi, ma manière de dealer avec, c'était de me dire genre. En fait, c'est pas la fin du monde. Regarde autour de toi les divorces qui se passent mal. Regarde autour de toi les gens qui ont des vrais problèmes. Toi, le vrai problème que t'as, c'est tes parents qui s'aiment plus. Ça existe. Et qui, en plus, restent bienveillants l'un envers l'autre et envers vous, donc ma sœur et moi. Pourquoi tirer mal ? Et le problème, c'est que quand vous commencez à penser comme ça votre rapport aux autres, c'est très complexe dans la suite logique des choses d'avoir un rapport, entre guillemets, qui est fluide. Parce que du coup, vous apprenez toujours à prendre du recul, à vous mettre à la place de l'autre. Et surtout, du coup, à attendre limite qu'on vous donne l'opportunité de ressentir ce que vous devez ressentir. Je me souviens que je crois que j'avais 21 ans ou 22 ans. Je fais un Noël avec ma maman et une de ses meilleures amies, j'aime beaucoup. Et c'est pendant ce Noël-là qu'on parle du divorce et que ma mère me dit « Ouais, ça a dû être très difficile pour toi, ma chérie. » Je dis « Bah non, ça s'est bien passé, enfin, vous avez été hyper sain. » Et elle me dit « Bah, ça n'empêche pas que ça a dû être extrêmement difficile pour toi. » Et c'est bête, mais à ce moment-là, je me suis dit, bah ouais, c'est vrai qu'avec le recul, j'ai beaucoup pleuré, j'étais mal à cette époque, parce que ça restait un modèle familial qui s'achève, qui se brise d'une certaine manière, même s'il a été brisé avec beaucoup de soin, il se brise quand même. Et c'est le fantasme de la famille unie, qu'on nous vend partout, etc., continue, on vit ça comme un échec, alors que c'est pas un échec, c'est une conclusion. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, je me suis dit, ah, j'avais le droit. J'ai le droit, même à l'heure actuelle, en tant qu'enfant, en tant que grand enfant de mes parents, de dire que c'était pas facile, en fait, à gérer. Et à partir de ce moment-là, je me suis rendu compte de deux choses. C'est que j'avais pas mal refoulé des choses que je ressentais, juste pour le principe, entre guillemets, de prendre du recul, voilà, c'est pas la fin du monde, et de la maturité, parce que si t'es pas mature, déjà que ces gens vont pas bien, alors toi, tu vas rajouter une goutte d'eau, pense pas qu'à ton nombril, etc., t'as rien qui te manque à côté. Et de deux, c'est que j'avais attendu que quelqu'un légitime mes sentiments, me valide mes sentiments pour qu'ils puissent exister. Et ça, c'est les deux conclusions que j'ai tirées. Et c'est notamment les deux conclusions que j'ai rapidement assez tirées avec ma psychologue. Le problème, c'est donc en soi la confiance, en fait. Parce que ma peur, c'est que mes sentiments soient invalidés lors d'un rapport humain. Or, il n'y a que moi qui devrais être capable de me donner la validation et donc, in fine, la légitimité de mes sentiments. J'avais besoin, par exemple, j'avais une embrouille avec quelqu'un, un désaccord, on va dire. J'avais besoin qu'on avalise mes sentiments, mes émotions, pour me dire « Ouais, ok, tu peux être en colère. Ouais, ok, tu peux être énervé, t'as de quoi. » Vraiment, j'avais rarement des choses qui m'arrivaient où je passais pas d'abord par d'autres de mes potes ou par des membres de ma famille pour me dire « Non, ok, tu as le droit que cette situation... » Enfin, tu as le droit d'être énervé par cette situation, d'être agacé, d'être triste, d'être en colère, d'être ce que tu veux. Et ça, ça a été pendant très 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 longtemps. J'avais besoin d'être sûre, en fait, que j'étais dans le juste pour réagir de la manière dont je voulais réagir. Et limite, parfois, je pense que j'ai réagi de la manière dont les gens me disaient de réagir, parce que je me disais, ben ouais, c'est comme ça que je suis censée réagir, en fait, à cette information. Encore une fois, il y avait une personne que j'avais fréquentée, enfin non, avec qui j'étais sortie, et j'étais avec des amis. Bon, je rigole parce que c'est nerveux, c'est ce que je me rappelle, la scène. J'étais avec des amis et avec cette personne, on s'aimait beaucoup, sauf que on s'est fait pas mal de mal parce qu'on était nuls à chier en communication, on était très jeunes, on avait beaucoup d'ego. Et à ce moment-là, en gros, la personne m'envoie un message en me disant « Oui, je vais en soirée, juste te préviens, il y a mon ex. » Et moi, je lis ça, on avait déjà parlé de son ex, etc. Tout était carré. Et moi, quand je sors avec quelqu'un, je pars du principe que je fais full confiance. Sinon, j'ai pas d'intérêt. Et que surtout, je n'ai aucune possession, en fait, sur cette personne. À partir du moment où je te fais confiance, où c'est pas délibérément tu te fais un café de 3 heures, vous raconter les bons souvenirs du bon vieux temps quand vous étiez amoureux, je m'en fous. Je m'en fous. Bien sûr, je peux être en mode « Waouh, mais trop génial, mon mec en soirée avec son ex, waouh !» Mais en soi, ça me mine pas le moral, ça me rend pas mal. Et mes potes lisent le message à ma place, alors pas de mauvaise conscience, c'est juste que c'était sur mon ordinateur, on était en train de regarder une recette, donc le message est vraiment apparu. Et elle le lit, moi j'étais dans une autre pièce, enfin elle le lise, et elles arrivent, elles me font « Ouais Juliette, y a ton mec qui est en soirée avec son ex et tout, ça va aller, ça te met pas en colère ?» Et en fait, au premier degré, moi j'étais en mode de, bah non, enfin je... Voilà, il me l'a dit, c'est bon, on en a déjà parlé, etc., y a pas de souci, c'est avec plusieurs potes, enfin bref. Mais les personnes étaient en mode « Mais t'es sûre ça va ?» Ah mais moi j'aurais pas aimé. Et c'était pas méchant, parce que honnêtement c'était une réaction qui pouvait s'entendre de mes potes, de me dire mais t'es sûr genre ça va, t'es sûr t'essaies pas de, je sais pas, d'avoir une carapace, tu peux te lâcher devant nous. Et j'étais en mode de non. Et c'est vrai que du coup sur le terme je me suis dit peut-être que j'aurais dû réagir comme ça, peut-être que même lui ça se trouve c'est ce qu'il attendait en disant ça. Je suis partie dans des conjectures, mais encore une fois je n'arrivais pas à me baser sur le seul fait de est-ce que ça me dérange fondamentalement, oui, non, du coup selon oui ou selon non on voit ce qu'il advient. Et ça, c'est vraiment un exemple parmi tant d'autres. Lors d'embrouilles, encore une fois, là, de vraies embrouilles, j'avais toujours besoin de raconter à un tiers l'histoire pour être sûre que j'étais pas en tort et que du coup, j'avais le droit de en vouloir à la personne, enfin, en vouloir. Avoir des griefs, m'expliquer avec cette personne, mais je pouvais jamais me faire confiance 100% à moi-même de me dire non, là, la personne, elle a daillé, ça me saoule et j'ai pas besoin qu'on vienne me confirmer. Ça, j'en étais incapable. Parce que je me faisais si peu confiance, encore une fois, quoi, j'avais besoin qu'on m'avalise la légitimité en fait encore une fois de mes sentiments dans telle ou telle situation. Et donc en fait au fil de mes premières séances avec ma psy, voilà ce qui a été le gros du travail et ce qui l'est encore, c'est d'apprendre à me faire confiance et à vivre les choses qui m'arrivent sans me demander comment je dois les vivre. Et de me dire je m'en fiche en fait que les gens soient d'accord avec moi ou pas, je vis et je ressens comme ça me chante. Ça ne veut pas dire « je m'en fous des autres, je ne les prends pas en considération ». Ça veut simplement dire, encore une fois, si je ressens que je suis triste, eh bien je suis triste. Je n'ai pas besoin qu'on me dise « oui, là, honnêtement, t'as raison de l'être ou t'as pas raison de l'être ». Parce que, encore une fois, at the end of the day, comme on dit, c'est vous et votre tête qui gambergez avant de dormir. Et c'est pas sûr que le fait est d'être dans le bon carcan social, d'avoir agi de cette manière ou de cette manière autre, vous fasse mieux dormir qu'au final, si vous aviez assumé, entre guillemets, l'émotion qui logeait au fond de vous toute la journée ou pendant des mois ou ce que vous voulez. Parce que vous voulez savoir un truc en plus, il n'y a pas de bonne réponse quand on parle des sentiments. C'est-à-dire qu'il y a certaines personnes qui attendront de vous que vous soyez triste de telle ou telle situation, d'autres en colère, et d'autres vont encore penser différemment. Par exemple, je fais beaucoup d'exemples dans cet épisode, mais je trouve que c'est important. J'ai rompu avec quelqu'un il y a quelques mois, genre c'était une situationship qui a fini, mais bref, c'était quand même une relationship quand même. Et quand ça s'est fini, il y a eu beaucoup, beaucoup d'éléments, beaucoup de choses. J'ai appelé une de mes meilleures potes pour lui en parler parce que bah, ça restait difficile en fait d'assembler tous les morceaux. Je raconte tout ça à ma pote et je lui dis, mais en fait, je suis désemparée. Genre vraiment, là, je suis démunie, je comprends pas, etc. Et moi, j'avais vraiment besoin de juste de rassembler les pièces avec quelqu'un parce que j'avais eu trop d'informations d'un coup. Et ma pote m'aide, m'écoute, etc. Et de très bons conseils. Et elle me dit, écoute, ce soir, tu vas être triste et c'est pas grave. Enfin, vis-le comme tu dois le vivre. Si tu dois pleurer, pleure. Mais ne te ferme pas aux émotions. Parce qu'elle me connaît très bien. Et du coup, moi, j'arrive, je suis en mode, wow, ça va être dur. J'ai jamais pleuré pour qui que ce soit. Mais là, cette personne, j'ai vraiment aimé. Et j'arrive le soir. Et pareil, je me souviens, je suis dans mon lit. Et juste, je suis tellement apaisée. Je suis tellement soulagée que je suis pas triste. Et cette personne, en plus, m'a tellement déçue. Alors, quelqu'un peut te décevoir et être du coup très triste, hein, ce n'est pas du tout incompatible. Mais moi, dans ma construction, quand il y a quelqu'un qui me déçoit à ce point, c'est pas que j'arrive pas à être triste, mais l'indifférence l'emporte sur les sentiments que je peux ressentir. Genre, c'est que mon cerveau, il a été formaté en mode tu ne mérites même pas que je sois triste, mais j'ai vraiment même pas de levier d'action sur ça. Genre, tu ne mérites même pas que je sois triste parce que ça voudrait dire que tu mériterais une émotion de ma part. Or, tu as marché sur toutes mes émotions en me manquant de respect, donc je ne peux pas. Et là, la situation, c'était vraiment ça. C'était que cette personne m'a manqué de respect sur plein de points. C'était plus complexe que ça, hein. Il y a plein de choses qui sont imbriquées. Mais du coup, je me suis couchée en me disant, est-ce que t'es triste? Non. Est-ce que tu refoules de la tristesse et tu te l'avoues pas à toi-même parce que t'as cette possibilité dans ta tête d'être hermétique aux émotions? Je me suis dit, ben non, honnêtement, non, j'ai été triste, littéralement, j'ai été triste avec cette personne, et je me laissais pleurer quand j'avais des moments de tristesse. Donc là, je dis juste en mode, en fait, je suis soulagée. Je sais pas me mentir à moi-même. Là, l'émotion que j'ai, c'est d'être soulagée. Les jours d'après, ce qui a été dur, ça a été ma dignité. J'étais en colère contre cette personne, contre moi-même, contre ce qui s'était passé. Et ça, pareil, je ne l'ai pas refoulé. J'ai même avoué. J'étais en mode, ouais, non, franchement, je suis en colère, je suis déçue. Mais il n'y avait pas de la tristesse. Et j'étais contente parce que je me suis écoutée. Je me dis, non, je n'ai pas inventé une émotion qui n'en est pas une juste parce que la situation fait qu'en général, les gens pleuraient. Je ne suis pas triste. Je suis soulagée. Je suis plein d'autres émotions, mais je ne suis pas triste. Et ça a été permis grâce à un travail, donc moi notamment grâce à ma psy, je trouve c'est très important de dire c'est pas la psy qui fait le travail à votre place. Hein. Allez voir un psychologue, un psychiatre, etc. C'est quelqu'un qui fait un lien entre vous et vous-même. C'est juste qu'elle va vous aider à trouver des clés que vous avez déjà en vous, mais que vous ne voyez pas. Et c'est ce qui s'est vraiment passé dans mon travail, donc depuis quelques mois, ça fait 2 mois je crois que j'ai commencé ma thérapie. Et ce qui est important à dire en fait, c'est qu'une fois que vous prenez conscience de cette confiance en vous qui est accessible dans votre rapport aux autres, en fait de vous dire mais non, tu sais ce que t'as à ressentir, c'est juste que c'est difficile pour toi de légitimer ces émotions sans passer par un tiers, ça c'est une autre question. Mais du coup quand vous commencez à prendre conscience de votre propre confiance, de vos sentiments et à leur donner vous-même leur valeur, il y a des moments où c'est un peu compliqué, à justement la mettre dans l'équation de trouver l'équilibre dans son implication émotionnelle. Parce que je vous jure que quand vous commencez à avoir cette confiance, il y a un moment où vous êtes en mode de « je vais arrêter de me faire chier pour les autres parce que genre, je l'ai toujours fait, ça m'a pas mal desservi, certains même en ont abusé de cette empathie, etc. Donc maintenant, je vais juste m'écouter, tu me fais chier, je te le dis, j'en ai rien à faire, je vais pas passer par des A plus B, etc. Je vais te dire, bah non, honnêtement, tu m'emmerdes, parce que pendant trop longtemps, on était toujours à prendre des pincettes, à éviter de blesser qui que ce soit, et du coup, à prendre tout sur nous, et à jamais dire. Et quand, du coup, il y a ce déclic qui se fait, faut pas tomber dans la tangente inverse de « Ok, ben maintenant les vannes sont ouvertes, j'en ai plus rien à faire, dans tous les cas, moi je suis droite dans mes bottes, et puis qui même me suive ?» C'est pas ça le but. Et c'est pour ça qu'il y a tout l'intérêt de l'épisode, c'est que, encore une fois, les extrêmes ne sont jamais bons. Dans tout ce que vous côtoierez, les extrêmes ne sont jamais bons. L'extrême de s'en foutre totalement et d'assumer pleinement vos émotions en ne prenant jamais en compte celles des autres, c'est pas bon. Mais par contre, à l'inverse, le côté, entre guillemets, de toujours vous mettre en porte-à-faux, en sentiment d'infériorité émotionnelle par rapport aux autres, ce n'est pas bon non plus. Trop d'empathie ou trop peu d'empathie, les deux ne sont pas bons. Et donc du coup, j'ai trouvé ce qui faisait l'équation parfaite pour avoir un bon équilibre émotionnel avec les autres. En fait, l'équation, c'est ta confiance, plus tes sentiments, plus le respect de ceci et des sentiments des autres, égale équilibre sain entre toi et ton implication émotionnelle face aux autres. S'il te manque l'un des 4 facteurs, c'est fini. Parce que si vous n'avez pas confiance en vos sentiments, ils existent, il y a ceux des autres que vous respectez, mais vu que voilà, vous n'avez pas confiance dans l'expression de ceux-ci, vous vous interrogez sur est-ce que ce sont les bons à exprimer dans telle ou telle situation, Et du coup, in fine aussi, le respect de vos sentiments, il est biaisé. Si vous manque le respect de vos sentiments, ça ne permet pas à la confiance et donc à l'expression parfaitement libre de ceci de s'exprimer également. Si carrément vous bloquez vos sentiments parce que bah, vous avez vécu des choses qui sont pas faciles, bah là, carrément, vous avez la confiance, mais la confiance, entre guillemets, de ne rien exprimer. Et donc, 0 fois 0 fois 0, ça fait 0. Donc, l'essentiel, c'est d'assumer vos sentiments, de les remarquer, de vous dire « Ok, dans telle situation, je ressens tel sentiment. » Voilà, vous les imaginez, vous les visualisez dans votre tête. Ensuite, c'est de vous dire « Je respecte ces sentiments. Que je les comprenne ou pas, je les respecte. » C'est-à-dire que vous avez, je ne sais pas, par exemple, un sentiment de jalousie. La jalousie, c'est un sentiment qui est irrationnel. On parle pas de manque de respect, là on parle vraiment de jalousie. Vous savez que vous êtes assailli par de la jalousie, vous savez que c'est pas un sentiment qui est très flatteur, qui fait du bien, vous ne le rejetez pas. Il faut respecter ce sentiment, il faut vous dire « Ok, il est là, je ne peux pas faire autrement que de constater qu'il est là, sinon je vais refouler et ça va être pire, et mon attitude envers la personne, entre guillemets, pour qui je ressens de la jalousie ou qui me fait ressentir de la jalousie, voilà, j'ai pas envie de biaiser ce rapport. » Donc là, il y a le sentiment. Je le respecte, j'envisage la situation entre guillemets de l'autre côté de la personne, je respecte du coup ses sentiments à elle, et ensuite je prends dans ma confiance pour exprimer ce que je ressens d'une manière ou d'une autre. C'est pas forcément toujours entamer une discussion de 2 heures de « alors excuse-moi, là t'as mangé une tomate alors que moi j'avais fait un super gratin dauphinois, assis-toi, faut qu'on parle ». C'est le but, c'est juste de vous dire, vous pouvez exprimer votre confiance même juste par rapport à vous-même, de vous dire bon, là je sais que c'est irrationnel, je sais que du coup entre guillemets c'est que de moi à moi, est-ce que je prends le pas de le dire à la personne, c'est pas nécessaire, mais j'ai confiance en moi pour me dire ok, mes sentiments sont là, je les respecte, je peux dealer avec ça moi-même, ou qu'à l'inverse je vais en parler à la personne parce que ben, j'ai confiance en moi mais du coup aussi en l'autre, je vais respecter ses sentiments dans le débat et puis on voit ce qu'il en advient. Et appliquer en fait cette équation, ça peut vous empêcher bien des peines. Parce qu'il y a tellement d'histoires où on s'implique, ou alors où on vous implique, qui nous retombent dessus, ou qui nous chagrinent. Par exemple, je pense aux histoires, vous voyez, de nos amis ou de notre famille. Les gens qu'on estime vraiment. Combien, à qui ce n'est pas arrivé, j'ai envie de dire, d'avoir été impliqué dans une histoire, ou de s'être trop impliqué nous-mêmes dans une histoire et qu'au final, soit ça nous est retombé dessus, soit ça nous a fait beaucoup plus de mal, en fait, alors qu'on n'était même pas concerné par le bail. Voyez, moi, ça m'est arrivé plein de fois dans mes relations, notamment avec mes amies meufs, parce que ben, beaucoup de sororité, beaucoup de bienveillance, en fait, pour mes femmes, j'allais dire pour mes amies les femmes, pour mes femmes, carrément pour mes wives. Et j'ai tendance, quand on porte atteinte au-delà de à mes amies, mais à mes amies femmes, et surtout quand cette atteinte vient d'hommes et de comportements qui relèvent d'un système, en fait, pas rentrer dans le gros du détail, mais dans un système patriarcal dans lequel nous avons tous baigné, notamment eux, j'ai du mal, en fait, à faire cette distance entre ce qui leur arrive et ce qui me touche de près, parce que ben, moi aussi, je suis une femme. Et ça, c'est vrai que récemment, j'ai eu un exemple avec, où je m'y suis confrontée, et j'ai dû prendre de la distance, de me dire « Ok, toi tes sentiments, c'est que ça t'atteint aussi dans ton intégrité, etc. Nanani, nanana. J'ai confiance dans mes sentiments. Par contre, je respecte aussi les sentiments de la personne que j'ai en face de moi. Et le respect de ces sentiments, c'est de ne pas l'envahir en fait. Enfin, de ne pas les envahir. C'est me dire « Tu n'as pas le droit de faire peser sur cette personne trop de ton implication dans ce qui se passe. » Vous voyez ce que je veux dire ? J'ai Mathilde, ma coloc, qui a dit une phrase que j'ai trouvée très belle, très vraie, très juste. Elle avait dit que ce soit envers la famille, les amis, les amours, ce que vous voulez, nous, on est là pour soutenir, pas pour guérir. Et cette phrase, je l'ai trouvée magnifique. Les gens qu'on aime, on est là pour les soutenir, mais nous n'avons pas les clés pour les guérir. Parce que je crois pas qu'on soit tous psy ici. Puis en plus, vous pouvez pas être psy de votre propre pote, il y a un conflit d'intérêts. Mais vous n'êtes pas son psy, et vous n'êtes pas lui-même, ou elle-même, ou elle-même. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'à partir de ce postulat, vous ne pouvez que soutenir cette personne. Vous n'avez pas le droit d'influencer une quelconque décision, même si ça vient d'un sentiment noble. Et moi, c'est vraiment ça, c'est que quand j'arrivais pas à trouver cet équilibre émotionnel, parce que j'étais trop touchée par une histoire, j'avais du mal à me dire, genre, Juliette, c'est pas ton histoire. même si ça te touche de très près, parce que ton ami va mal, parce que ton ami est une femme et subit des choses que toi-même t'as subies et tu trouves ça injuste, etc. Et nanani nanana, ce n'est pas ton histoire. Toi, tu es là pour apporter du soutien, de l'amour. Un soutien indéfectible, en fait, de dire à cette personne, je serai là coûte que coûte, derrière tes fesses, mais par contre, ne te mets pas trop dans des histoires qui ne te regardent pas, parce que même pour toi, t'auras plus de paix. Genre, on a tous et toutes assez d'histoires qui nous regardent. S'impliquer de trop près dans des histoires qui ne nous regardent pas, au-delà de nous faire après porter des chapeaux qu'on ne voulait pas porter, ça peut nous faire beaucoup, beaucoup de mal. Or, centrons-nous déjà sur ce que nous avons à régler nous-mêmes et soyons juste là pour les gens que nous aimons, c'est largement suffisant. Et pour conclure cet épisode, j'aimerais vous dire trois phrases que tu dois te poser quand tu hésites à t'impliquer émotionnellement dans une situation et à comment le faire. Parce que moi, c'est vraiment trois phrases qui ont changé la donne. Déjà de 1, c'est « choisis tes combats ». Est-ce que cette situation, cette personne, ce contexte vaut la peine que tu mettes de ton énergie dedans ? Cette phrase, c'est mon père qui me l'a dite et je l'avais beaucoup appréciée à l'époque parce que voilà, c'était encore une fois où je mettais mon énergie dans tout et rien parce que j'étais touchée par tout et rien. Et mon père m'a dit « choisis tes combats, ma fille. Ton énergie, elle est précieuse. Genre, tu peux pas donner ton temps à tout le monde comme ça, surtout les personnes qui ne le méritent pas ou les situations, etc. qui ne le méritent pas. » Donc ça, vraie question. Demandez-vous, est-ce que là, cette situation, pour ce qu'elle vaut, pour ce qu'elle est, mérite vraiment que je donne de mon énergie et de mon temps. Et encore une fois, ce n'est pas pour être je m'en foutiste en mode tu me mérites pas, c'est pas ça. C'est juste genre mesurer l'énergie que vous mettez dans les choses. Vous pouvez mettre 10% d'une énergie, enfin de votre énergie dans une situation parce qu'elle ne vaut pas plus. Et ce sera déjà bien parce que vous aurez mis de votre énergie. Mais il n'y a pas à s'impliquer forcément 100% dans tout, croyez-moi. Ensuite, deuxième question, c'est de quoi la personne a besoin de ta part dans l'échange. Est-ce que la personne a besoin que vous débattiez ? Est-ce que la personne a besoin d'un soutien ? Est-ce que la personne a besoin d'une simple écoute ? Est-ce que la personne a besoin d'un avis ? Demande si tu n'es pas sûr. Mais un conseil, c'est que moi, très souvent, quand mes potes me parlaient de quelque chose qui leur arrivait, ça m'arrive encore, bien sûr, hein, je suis humaine, j'avais tendance à dire mon avis. Je parle bien d'avis, pas de jugement, mais l'avis, en fait, quand on ne te le demande pas, il n'est pas nécessaire. Sauf que parfois, on a l'habitude de réagir en fait, à ce que nous disent les gens qui nous entourent, ça reste humain. Mais ce que je veux dire, c'est que si vous questionnez de « là, je ne suis pas sûre que si je dis mon avis à la personne, elle va le prendre bien », demandez-lui « est-ce que tu souhaites un avis à ce que tu me racontes ou est-ce que tu veux simplement que je t'écoute ?» Et vous pouvez également dire dans l'autre sens à la personne « je suis navrée, mais là, je ne peux pas écouter, entre guillemets, sans rien faire, sans réagir, parce que c'est au-delà de mes forces. » Respectez les sentiments des autres, respectez vos sentiments encore une fois dans l'équation. Sinon, ça ne marchera pas. Enfin, dernière question, prenez du recul et soyez toujours en accord avec vos valeurs. Je sais que c'est très difficile et que parfois, en fait, on n'y arrive juste pas parce que la situation est trop violente, parce que la situation est trop abrupte. Mais si vous avez peur, entre guillemets, d'être dans le faux, interrogez-vous sur qu'est-ce que vous aimeriez qu'on vous dise, quelle est la meilleure manière pour vous d'agir. Bref, en fin de cet épisode, je vous dirais que, voilà, je vous ai donné mon équation, entre guillemets, de l'équilibre sain dans votre implication émotionnelle aux autres. Mais le conseil que j'aimerais vous donner le plus, c'est ayez confiance en vos sentiments. Je vais même pas dire ayez confiance en vous, mais c'est ayez confiance en vos sentiments. Parce que vos sentiments, ils existent. Genre, à part si vous souffrez d'une pathologie, et je vous le souhaite pas, qui fait que vous n'avez pas de sentiments ou d'émotions, vos sentiments sont là. Vous avez juste appris, malgré vous, à les mettre sous le tapis, à les écarter de tout, pour ne jamais blesser les autres, pour favoriser le bonheur des autres avant le vôtre. Mais ça va finir par vous porter préjudice dans vos interactions sociales, ça va commencer à vous peser de plus en plus, parce que justement, vous ne saurez jamais comment bien répondre à telle ou telle situation et vous allez vous faire des nœuds au cerveau de choses qui sont claquées au sol et qui sont basiques pour la plupart du temps. Donc faites confiance à vos sensations, à vos émotions, vos sentiments, laissez-les entre guillemets un peu plus vous envahir et commencez petites étapes par petites étapes à leur donner plus de place. Et leur donner plus de place, croyez-moi, c'est déjà ne jamais les brider dans les mots que vous utilisez pour les dépeindre. C'est-à-dire que moi, très souvent, je disais d'une émotion « Non, mais là, je sais que j'en fais un peu trop, mais ça m'en rend pas folle. » Non, la phrase, c'est peut-être pas... peut-être que là, je parle sous le coup de l'émotion, mais à l'instant T, c'est très dur. Ne bridez pas vos émotions quand vous les exprimez, parce que si vous les bridez pour vous-même, pourquoi les autres ne les brideraient pas pour vous aussi ? Vous voyez ce que je veux dire ? Quand vous commencez à laisser vos sentiments s'exprimer et à les nommer comme ils sont, sans « non, mais après, tu sais, peut-être que c'est pas justifié », on s'en fiche, ils sont là. Après, la manière dont vous allez dealer avec, c'est un autre cas de figure. Mais juste de trouver votre équilibre dans votre implication émotionnelle, c'est déjà de trouver l'équilibre en vous-même de ces émotions. Faites-leur confiance, laissez-les s'exprimer, elles n'attendent que ça, ces émotions. Sur ce, je vous fais des gros bisous. N'oubliez pas que rien n'est grave, que le temps ne presse pas, que vous n'êtes pas un boulet incapable de dealer avec vos propres sentiments. Je vous dis ça parce que je l'ai pensé pendant trop longtemps et je le pense encore et je fais littéralement une thérapie pour ça en partie. Et si je peux vous dire quelque chose, c'est ayez confiance en vous. Si vous vous posez toutes ces questions, je vous assure que c'est parce que déjà vous êtes quelqu'un de bien, quelqu'un de mauvais qui ne pense qu'à lui, ne se poserait même pas ces questions. Donc juste maintenant, laissez le temps au temps, commencez à faire du travail et voilà. Je vous fais des gros bisous et on se retrouve très vite pour un prochain épisode. Tchou!